Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'impact de la situation au Moyen-Orient contre certains vols. Les produits du bois indonésien ont attiré les marchés du Moyen-Orient. Rencontré le vice-président indonésien, l'ambassadeur de Chine espère que l'Indonésie renforce l'initiation d'Obor. Luhut invite l'ASEAN à recycler des déchets en plastique dans la mer. Et enfin, l'Indonésie a fait avec succès la diversification économique. Voici le journal complet. La rupture des relations diplomatiques de certains pays arabes avec le Qatar a eu un impact sur le vol de la compagnie aérienne Qatar Airways transportant des pèlerins de l'Omra en Arabie Saoudite. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a confirmé que le gouvernement aiderait les pèlerins de l'Omra Indonésie à changer la compagnie aérienne. La ministre Retno a déclaré qu'après la rupture des relations de certains pays arabes, elle avait communiqué directement avec diverses parties, y compris le ministre des Transports Budi Karya Sumadi et le ministre des Affaires religieuses Lukman Hakim Saifuddin, sur la solution aux pèlerins de l'Omra d'Indonésie qui était encore en Arabie Saoudite. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également communiqué avec certains ministres des Affaires étrangères des pays amis, en particulier les ministres des Affaires étrangères situés dans la zone économique exclusive dans la région du Golfe. J'ai volé d'Abuja à Lagos, puis Lagos à Jakarta avec Qatar Airways. Je me suis certainement arrêté à Doha. J'ai utilisé ce transit pour rencontrer notre ambassadeur à Doha. Donc, nous parlons, c'est bien sûr le dernier développement de la station à Doha et je voulais aussi assurer à ce que tous les pays vivant au Qatar soient en bon état. L'ambassade a également formé un groupe de travail spécial pour la protection des citoyens indonésiens. Donc, du côté de la protection des citoyens indonésiens vivant au Qatar, si Dieu le veut, rien ne se passera. Deuxièmement, avec l'ajustement qui doit être fait par Qatar Airways, cela affecte également les pèlerins de l'Omra en provenance d'Indonésie. Et cela, nous avons également réussi, alhamdoulilah, jusqu'ici, le problème important n'a pas encore émergé. Auparavant, la Direction générale de l'aviation civile du ministère des Transports a cherché une solution en déviant les vols vers d'autres compagnies aériennes qui pouvaient transporter les pèlerins en douceur et confortablement. À cause de la rupture des relations diplomatiques, Qatar Airways n'est pas autorisé à entrer en Arabie Saoudite, à La Mecque et à Médina comme destination de pèlerinage pour les musulmans à travers le monde. Cette politique est de déplacer ces pèlerins de Qatar Airways vers d'autres compagnies aériennes qui ont des routes vers l'Arabie Saoudite, en particulier Riyad et Médina. Les produits du bois indonésien ont attiré le marché du Moyen-Orient en générant des transactions d'un montant de 20 000 dollars américains et la transaction potentielle d'une valeur d'1,47 million de dollars américains à une exposition internationale de conception ou Index 2017. Le chef du Centre de la promotion de l'Indonésie à Dubaï, Gus Malinda Sari, a déclaré que le produit de l'Indonésie à cette exposition qui a eu lieu du 22 au 25 mai 2017 au Centre de la promotion mondiale de Dubaï sont les produits avec des matériaux de base de bois et la conception naturelle unique. Gus Malinda, Sahi, dans son communiqué, a expliqué l'originalité du bois indonésien et sa conception naturelle ont attiré l'attention des consommateurs, en particulier de l'Europe, de l'Amérique et du Moyen-Orient. Il y a 3 sociétés indonésiennes qui ont participé à l'exposition. Il a ajouté que pendant les 4 jours de l'exposition, environ 1500 visiteurs potentiels sont venus au stand de l'Indonésie. La majorité des visiteurs proviennent de l'Europe et d'autres pays du Moyen-Orient tels que les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite et le Liban. Parce que ses fonctions comme ambassadeur est achevée et dans les ans plus à venir, il sera de retour en Chine. Si fin au bureau du vice-président, jeudi espère une initiation de One Belt, One Road ou au bord peut être renforcée. Il a dit qu'il était très heureux car au cours des 3 dernières années, cette relation de coopération entre l'Indonésie et la Chine a intensifié très rapidement. L'une d'elles est l'accord d'initiation de la route de soie moderne, principalement dans les voies maritimes. Selon Feng, cette initiative est une très bonne occasion d'élargir la coopération entre la Chine, l'Indonésie et d'autres pays, si bien que cela donne des avantages et le bien-être pour le peuple. Le ministre de coordination pour le transport maritime, Luhut Binsar Panjaitan, invite tous les pays d'Asie du Sud-Est ou ASEAN à collaborer pour faire face ensemble au problème des déchets plastiques dans l'océan. Selon lui, les pertes à cause des déchets plastiques subis par la mer atteignent 1,2 milliard de dollars américains, couvrant divers domaines tels que la pêche, le transport maritime, le tourisme et les affaires d'assurance. Luhut Panjaitan, dans un communiqué, a souligné que le problème de pollution marine et des défis transformés. Luhut Panjaitan dans un communiqué a souligné que le problème de la pollution marine est des défis transfrontalières qui doivent être surmontés de manière efficace afin d'atteindre un développement durable marine. En outre, pas le moindre des pays de l'Asien et les exportateurs principaux de produits alimentaires et produits de la mer. Selon lui, la coopération stratégique maritime pour résoudre le problème du plastique marine peut être une base solide pour renforcer la coopération maritime existante. La croissance économique d'Indonésie au cours du premier trimestre de 2017 atteint 5,01%. Cela a prouvé le succès du gouvernement pour diversifier l'économie et la politique économique. Le chef du bureau de représentants de la Banque d'Indonésie de Province Riau, Siti Astia, a déclaré mardi que le gouvernement a réussi à diversifier les revenus d'État, bien que les prix de pétrole brut ont chuté ces dernières années, et l'huile de palme brut, CPO, qui fournit actuellement les revenus de l'État. Selon lui, en macroéconomique, les prix du pétrole et du gaz diminuent encore, puis faire la diversification économique. Donc, l'Indonésie et les régions comme la Province Riau jouissent d'une bonne croissance économique. Il a confirmé que la réalisation de la croissance économique dans la période de janvier à mars ou le premier trimestre de 2017 montre en macro que le climat des affaires dans le pays était meilleur. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les tamusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de 3 villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. Nous commençons avec l'éditorial du journal Compass le 9 juin sur la gouvernance du gouvernement. Le gouvernement a écouté les critiques du public concernant la fixation de la limitation minimale du solde du compte qui doit être signalé à la Direction générale des impôts. Le règlement du ministre des Finances qui fixe des limites sur le solde du compte au moins 200 millions roupias devraient être signalés à l'institution financière, à la Direction générale des impôts, a provoqué des troubles. En réponse à l'anxiété publique, le ministre des Finances a révisé et le règlement du ministre des Finances en augmentant le seuil minimum de 200 millions d'être 1 milliard roupias. Selon le journal Compass, l'étape du ministre des Finances de refuser le montant du solde minimum devrait être appréciée. Le gouvernement a entendu l'esprit du public. Cependant, la question est comment le gouvernement a formulé une politique publique avant la diffusion au public. La gouvernance de l'administration publique et les stratégies de communication avec le public doivent être prises en compte. Selon Compass, un projet de décision en suspens devrait rester confidentiel. D'autre part, la présence d'un porte-parole du gouvernement crédible et la confiance du public est nécessaire. Ne laissez pas le crédit du gouvernement dévié par les faiblesses du gouvernement dans la communication. Le deuxième, l'éditorial du journal Média Indonésia le 7 juin, est en beau titre « Civilisé » en utilisant les médias sociaux. Son nom est les médias sociaux. Cependant, la fonction sociale a commencé à être remise en question parce que cette fois, les types de médias sont réellement dominés par le contenu négatif et canular. Les médias sociaux, qui ont été initialement créés comme une alternative aux médias traditionnels, déplacent maintenant dans la mauvaise direction. L'utilisation incorrecte des médias sociaux est très préoccupante. Non seulement nous avons perdu un outil à l'époque moderne qui était très agréable de renforcer les relations, la prédominance du contenu négatif qui est souvent saupoudré avec la parole et de la calomnie et la haine a été prouvée, l'hostilité souvent propagation est une source de conflit. Si elle n'est pas immédiatement mise fin, la vie dans le monde des médias sociaux sera de plus en plus barbare. De plus, cette nation dans un proche avenir sera face à deux grands fêtes de la démocratie, à savoir les élections locales et les élections simultanément en 2018 et les élections générales en 2019. Ces deux fêtes nécessitent une situation pacifique dans le pays, cool et la confiance mutuelle. Dans ce contexte, l'émergence d'une fatwa du Conseil des Ulémas Indonésiens MUI sur la loi et les lignes directrices d'interagir par les médias sociaux est clairement une bouffée d'air frais. Selon les médias en Indonésie, la fatwa de MUI pourrait devenir l'effort d'illumination d'entrer dans le monde virtuel. Fatwa est le produit religieux. L'histoire prouve la religion contribue à la création de la civilisation. Grâce à cette fatwa MUI, la religion veut jouer un rôle dans la création, de manière civilisée, d'utiliser les médias sociaux. Le dernier, l'éditorial du journal Sindo, le 6 juin, sur contrôle du prix alimentaire. Le gouvernement garantit la disponibilité des produits alimentaires de base ainsi que l'approvisionnement en carburant pour répondre aux besoins de la communauté jusqu'à la prochaine aide, y compris le riz et le sucre. Le stockage du riz de l'agence de logistique Bulog a atteint 2,2 millions de tonnes et 329 000 tonnes de sucre, 40 000 tonnes de viande congelée ainsi que la disponibilité de l'ail dont le prix avait sauté avant d'entrer dans le Ramadan. Cependant, le ministre de l'Agriculture, Amran Sulaiman, a dit qu'il n'y a pas de problème car il reste conforme à la référence au gouvernement comme le prix le plus élevé de détails politiques fondés sur le ministère du Commerce. Pour surveiller la disponibilité des produits alimentaires de base, un certain nombre de ministères et organismes, y compris la police, continuent de faire la coordination. Le ministre du Commerce Enggar Tiasto Lukita a mentionné les stocks d'agrafes dans des limites sûres jusqu'à la prochaine Eid al-Adha. Cependant, le ministère de l'Énergie et des États des ressources minérales a préparé un stock de plans de sécurité du carburant, en particulier lors du passage à la maison et la largeur des refoulements. Selon le journal Sindo, tout le monde espère que les calculs du gouvernement sur l'offre des besoins de base et le carburant ne glissent pas, que les gens n'ont pas besoin d'être inquiets. Chers amis, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Les habitants de Radour massacrés par les SS le 10 juin 1944. Le général Lamerding envoie un détachement de la division SS au Dasreh détruire Radour-Suglan, un petit village près de Limoges. Toute la population est rassemblée sur la place de Marseille sous prétexte d'une vérification d'identité. Les hommes sont enfermés dans des granges, les femmes et les enfants sont conduits dans l'église. Les SS mettent le feu au bâtiment et 642 habitants, dont 246 femmes et 207 enfants, trouvent la mort. De retour du front et où les exactions étaient monnaie courante, La division des Rais avait déjà commis un massacre la veille à Toul. Notre information est sur la traité d'amitié République d'Indonésie. L'Égypte a signé au Caire le 10 juin 1947. Le président indonésien Sukarno a envoyé une mission diplomatique en Égypte comme réponse à l'arrivée du consul général d'Égypte à Bombay, Abdul Munim, qui a visité Yogyakarta il y a quelques mois auparavant. Dirigé par le vice-ministre des Affaires étrangères Haji Agus Salim, a pour mission de mobiliser un soutien pour l'indépendance de l'Indonésie dans le monde et a signé un traité d'amitié entre l'Égypte et l'Indonésie. Le traité d'amitié, la politique et le commerce entre les deux pays a été signé au ministère des Affaires étrangères de l'Égypte. Du côté égyptien, a été représenté par le premier ministre Nohrasi Pacha, qui est également le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, et la partie indonésienne a été représentée par Agus Salim. Avec la signature du traité d'amitié, renforce plus la souveraineté d'Indonésie en tant que pays indépendant. L'Égypte est le seul pays qui reconnaît la souveraineté de l'Indonésie de facto et de jure à cette époque. Cet accord est la première victoire de la diplomatie indonésienne à l'étranger, ainsi que l'échec des Pays-Bas pour empêcher la reconnaissance de la souveraineté indonésienne à l'étranger. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement Le Pont sur Amadou. Le Pont sur Amadou, en indonésien, Jembatan Suramadu ou Pont Surabaya Madura, est un pont à auban constitué de trois sections reliant les villes de Surabaya sur l'île Java et de Bangkalan sur celle de Madura en Indonésie, d'où son nom formé à partir de Surabaya et Madura. Il a été inauguré le 10 juin 2009 d'une longueur de 6 438 mètres. Il franchit le détroit de Madura, séparant la mer de Bali de la mer de Java et le plus long du pays. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en petit titre, l'Indonésie continue d'augmenter le niveau de l'investissement. Après que le mois dernier, Standard & Poor's a donné le statut de qualité d'investissement ou la valeur de l'investissement en Indonésie, la confiance sur la condition d'investissement en Indonésie vient de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUCED. Le résultat d'une enquête récente auprès des principaux organes de l'Assemblée générale de l'ONU en chargeant de la question du commerce et de l'investissement, intitulé « Le reportage d'investissement mondial 2017 » et publié le mercredi 7 juin, a mentionné l'Indonésie occupe le quatrième rang en tant que pays de destination d'investissement prospectif 2017-2019. Cette position augmente de la huitième place dans la même enquête l'an dernier. Dans l'enquête d'affaires de la CNUCED sur un certain nombre de sociétés multinationales, l'Indonésie a gagné 11% de la réponse totale des dirigeants interrogés. Le secteur de services est l'un des secteurs ayant le plus haut niveau de confiance, accru les investissements transfrontaliers. La page du ministère de la Coordination de l'économie a affirmé les investisseurs étrangers ont également montré un intérêt dans la zone industrielle et les zones économiques spéciales. Par rapport aux pays voisins en Asie du Sud-Est, l'Indonésie est en position relevée. Concurrent le plus proche de la Thaïlande est maintenant à la 5e place, mieux que l'année précédente, le 14e niveau. Les Philippines sont classées au 10e rang, en baisse d'un cran de classement de l'année précédente. Le Vietnam a grimpé de 2 rangs de la position 14 à 12. Cependant, Singapour à 13e augmente 5 niveaux de l'an dernier dans le 18e classement. Les États-Unis sont classés au premier rang, suivis par l'Inde et la Chine. L'enquête a également dit que les hommes d'affaires croient que la croissance des investissements dans la région de l'Asie du Sud-Est, tels que l'Indonésie, le Vietnam et Singapour, sera mieux cette année et dans l'avenir. Ils croient aussi à l'avenir, la reprise économique fournira la force et d'accroître les investissements dans les prochaines années. En effet, un certain nombre de sociétés multinationales dans le secteur de l'énergie et des mines a commencé à se remettre de la maladie, après que deux dernières années, leurs affaires se sont effondrées. Par conséquent, leurs projections au cours des deux prochaines années, l'investissement va augmenter. Malgré cela, l'incertitude est toujours imminente. Dans l'enquête, seulement 41% des cadres qui étaient répondants qui vont investir cette année. Pour l'an 2018, ils sont indiqués plus optimistes. 50% des répondants augmenteront l'investissement et va augmenter en 2019 avec un total de 53% des cadres. Le reste des répondants ne prévoit pas d'entrer dans de nouveaux marchés. Toutefois, les entreprises sont à la recherche de consolidation pour développer l'investissement qui a été planté. L'augmentation de l'attractivité de l'Indonésie en tant que destination directe de l'investissement, soit investissement direct étranger, continuera d'être accompagné d'une amélioration économique. Ainsi, l'investissement dans les prochaines années est censé augmenter. Chers amis, c'était la mise au point.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les amusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
l'actualité, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous introduisons Bubur Kampiun, soit la bouillie championne en provenance de Sumatra Ouest. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Vous devez essayer le culinaire une fois que vous arrivez à Sumatra Ouest. C'est Bubur Kampiun, soit la bouillie championne. Ce plat richement aromatisé est garanti d'éveiller votre goût. La bouillie championne est un mélange de plusieurs pâtes qui est combiné à produire un goût doux et sucré. La bouillie championne constitue d'un mélange de riz gluant blanc cuit à la vapeur, de la bouillie blanche ou bouillie de farine de riz et lait de coco, la bouillie de riz glutineux noir, la compote de banane ou de pomme de terre, la bouillie de haricot et la bouillie chandil. Toutes les bouillies sont ensuite étouffées par le lait de coco et garnies de sucre brun liquide. Dans la région d'origine Sumatra Ouest, la bouillie championne est appelée Bubur Kampiun. Selon l'histoire, l'origine du nom de cette bouillie est tout à fait unique. Autour des années 1960, le gouvernement révolutionnaire d'après-guerre de la République d'Indonésie, 1958-1961, les chefs traditionnels détiennent divers événements pour éliminer le traumatisme des résidents, comme des concours de cerf-volant, des compétitions de football, les concours de fer pecah, et de la création de la bouillie. Une des participantes de concours de création de bouillie était une grand-mère qui a tous les jours vendu un assortiment de porridge. Parce qu'elle était en retard, elle ne pouvait pas faire la bouillie au concours de création de boue. Puis, elle a seulement préparé des bouillies de marchandises sur la plaque. À la fin de l'événement, le jury a annoncé que la bouillie de grand-mère était un champion. Lorsqu'on lui a demandé ce que le nom de la bouillie qu'elle a créée, cette grand-mère a spontanément nommé par Bubur Kampiun. Depuis lors, le mélange des bouillies est devenu célèbre. En plus de petits déjeuners, la bouillie championne est également devenue un culinaire d'iftar recherché. Dans certaines régions, la bouillie championne a la variation de mélange, comme l'oupis ketan putih, comme le remplacement du riz gluant ou remplacement de la bouillie chandil. D'habitude, les commerçants de la bouillie championne cuisent une variété de mélange de bouillie championne depuis les premiers jours. Tous les ingrédients sont cuits ensemble dans un pot différent. Par conséquent, pour créer une bouillie de champignon complet, il y a au moins 6 types d'ingrédients qui sont cuits. Préparer et faire cuire la bouillie champignon nécessite des compétences particulières afin d'obtenir les résultats comme prévu. On doit définir le début du processus de cuisson de l'eau, couper les matières, l'extorsion de lait de coco jusqu'à ce qu'agiter des bouillies. Les prix d'un bol de bouillie champion est environ 9 000 à 12 000 rupiah. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidèle attention. À demain. Tasabui kota suara mesu ngajari yang di tepi.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleurs et en titre. ASEAN Literary Festival, soit le festival littéraire de l'ASEAN. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Du 3 au 6 août prochain, le festival littéraire de l'ASEAN, FLA, se tiendra de nouveau pour la quatrième fois, après avoir tenu pendant 3 années consécutives depuis 2014. Le complexe de Vieille Ville accueillera le festival littéraire et culturel. Le directeur du programme du festival littéraire de l'ASEAN, Oki Madasari, a dit pendant 3 années consécutives, le festival littéraire de l'ASEAN utilise toujours Taman Ismail Marzuki Team. Cette année, le festival aura lieu dans la Vieille Ville, dans l'espoir d'utiliser les sites historiques au nord de Jakarta. L'événement de cette année sera très spécial pour l'événement une fois tenu pour célébrer les 50 ans de la fondation de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ou mieux connu sous le nom de l'ASEAN. Ce 50e anniversaire de l'ASEAN est le reflet de la réalisation de la formation de la communauté culturelle et littéraire de la région et quels sont les défis des 50 prochaines années. En 2017, le festival littéraire de l'ASEAN FLA a pour thème Beyond Imagination, soit au-delà de l'imagination. Il va utiliser tous les bâtiments à la Vieille Ville. Ce festival vise à présenter les réalisations et les produits littéraires d'écrivains de l'ASEAN au niveau mondial, ainsi que les efforts du festival pour améliorer l'adoration aux livres et la lecture chez les jeunes et les enfants en Indonésie et dans la région à l'époque des médias sociaux aujourd'hui. FLA 2017 est pleinement soutenu par le ministère de l'Éducation et de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Chaque année, avant le lancement du festival, FLA a toujours tenu un événement pré-festival, entre autres, littérature ancre au village, résidence et un nouveau programme supplémentaire, Jamboree National de la Littérature. Cette année, FLA apporte des dizaines de discussions comme la partie principale du festival. Comme les années précédentes, FLA a toujours le thème récurrent des problèmes importants de la société en dépit d'obtenir cette liberté de grands défis. Cette année, la liberté d'expression devient un enjeu majeur. En plus de la croissance de radicalisme et de terrorisme, et le rôle des médias sociaux qui sont de plus en plus centrales dans la vie personnelle et publique. Le programme de résidence est un programme où les écrivains de l'ASEAN et non-ASEAN sont ensemble pour apprendre et partager. L'auteur choisi dans le programme de résidence sera également un conférencier du festival. Cette année, le programme de résidence aura lieu du 27 juillet au 2 août. En plus de ces événements, FLA sera également animé par des expositions d'art, des démonstrations culinaires et des foires du livre. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis!
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les tamusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et dangdut. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un groupe musical Bimbo. Ce groupe musical provenant de la ville Bandung, Java West, a été fondé aux années 1967. Les personnels se composent de Sam Bimbo, Acil Bimbo, Jaka Bimbo, Ovi Dutang, leur sœur Inpak Lina Arezuang. Outre les chansons pop, Bimbo chante également les chansons religieuses. Bon serviteur, pour ouvrir notre rencontre, voici une chanson de Bimbo intitulée Tuhan. Bonne écoute.
Tempat pahala dan dosa saja dengan segala doa.
Seritak setelah Samsung de Bimbo ang titulé Tuhan. Si boleh ang wa letra pakur elektronik a French at boi pong si pong ide en nouveau sang ton aglamang a raison de la voir les sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter at voi Indonesia. Comme son titre Tuhan ou Dieu, cette chanson raconte les relations entre les êtres humains et Dieu. La chanson composée par Sam Bimbo est considérée comme un rappel pour les amoureux de la musique pour rester proche de Dieu et se rappeler l'au-delà de la vie. Le groupe utilise d'abord le nom latin Trio Los Bimbos et ce nom a changé à Trio Bimbo pour sembler plus local. Initialement, Trio Bimbo est fortement influencé par la musique latine. En 1971, Ian Parina rejoint ce groupe. Depuis ce moment, le nom de ce groupe musical a changé à Bimbo jusqu'à présent. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante de Bimbo intitulée « Longue tapis de prière ». Bonne écoute.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buatan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini
diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mengingat di kau sepenuhnya.
Sekurita kuna dekute la sangsong ang titule Longue tapis de prière de Bimbo. Se sangsong composé par l'écrivain nommé Taufik Ismail raconte une longue tapis de prière qui représente la vie humaine de la naissance à la mort. Dans la chanson, a mentionné que l'activité la plus importante est d'adorer Dieu, alors que le travail et d'autres choses sont juste une simple distraction. Les chansons religieuses de Bimbo survivent encore et sont aimées par les amateurs de musique indonésie à ce jour. Les paroles qui touchent le cœur et le rythme calme rendent les chansons de Bimbo d'être légendaires et ces chansons sont survécues à tous les temps. Notre chanson Bimbo qui est assez aimé et sajadah panjang au longue tapis de prière adapté de la poésie du poète indonésien Taufik Ismail et mélodie arrangée par Sam Bimbo. Cette chanson a été chantée à nouveau par Ariel Noah. La chanson Dieu a été chantée à nouveau par le groupe musical Gigi et Rindu Rasul chantée à nouveau retour par Vidi Aldiano. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons de Bimbo intitulées « Avoir les yeux, mais pas vous » et « Bienvenue le Ramadan ». Bonne écoute et au revoir.
But
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français, ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.